Voilà, un temps d'enseignement où j'ai intitulé cet enseignement La vraie repentance. Donc, pour savoir exactement qu'est-ce que c'est la repentance selon le cœur de Dieu, il va falloir savoir de quoi déjà on doit se repentir et donc déterminer qu'est-ce que c'est le péché. On peut se repentir sans cesse, mais si on n'a pas compris de quoi on se repent, est-ce que tu veux te repentir de tes péchés, confesser Jésus dans ta vie? Oui, je me repens de mes péchés, je confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais t'as rien fait du tout puisque. Si tu n'as pas compris de quoi tu te repens, moi j'ai vu des sorciers faire cette prière-là parce qu'il y a des gens qui allaient dans des pays nécessiteux et ils faisaient la prière et après ils retournaient faire leur gris-gris, leur sorcellerie et ils n'avaient jamais changé de Seigneur sur leur vie, quoi. C'était juste des mots. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre que c'est pas juste un rituel, que c'est pas juste des paroles, il faut savoir de quoi on se repent. Quand on se repent, il y a un changement qui s'opère. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le péché. Donc, le péché, en hébreu, chataa, qui veut dire ce qui manque le but, ce qui manque la cible. Donc, le péché, c'est faire quelque chose qui manque l'objectif de Dieu, qui manque le but de Dieu. Et donc, l'ennemi, c'est ce qu'il cherche à nous faire. Il cherche toujours à nous égarer. Il nous fait sortir du chemin, de l'axe, des œuvres qui sont prévues d'avance pour nos vies afin qu'on les pratique. Et même, on peut faire ce qui a l'apparence d'être des bonnes œuvres, ce qui a l'apparence d'être bien. Et c'est peut-être hors de ce que Dieu nous a appelé à faire dans son plan prévu d'avance pour nos vies. Et donc, même le bien qu'on peut faire, même si ça nous paraît bien et que c'est pas les œuvres prévues d'avance de Dieu, ben, c'est quand même un péché parce qu'on loupe finalement l'axe et ce à quoi Dieu nous a prédestinés d'avance. Donc l'ennemi en Éden, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné Adam et Ève par rapport à un mensonge. Il leur a fait louper le but. Il les a fait communier à quelque chose qui ne leur était pas permis. Enfin, en tout cas, ça leur était permis, mais ça leur a été comme interdit, déconseillé de manger de cet arbre. Et puis finalement, Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant ainsi cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils ont loupé le but, ils ont loupé l'axe de Dieu. Et donc, le péché a donné un droit au père du péché, à Satan, et la Bible elle dit qu'on est esclave de celui à qui on se soumet. Donc, non seulement on avait loupé le but, on a péché, mais en plus on a pris l'identité du père du péché, on était devenus des pécheurs. Et donc, il faut bien faire la distinction justement pour comprendre que péché c'est une action qui veut dire louper la cible, manquer la cible, manquer l'objectif, manquer le but, et que pécheur c'est une identité. C'est ce que Paul il nous dit des fois, bah, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Est-ce que ça change son identité de juste à Paul? Est-ce qu'il devient pécheur? Non, la Bible elle dit que le juste tombe et Dieu le relève, il ne devient pas un vilain mauvais pécheur. On ne peut pas avoir épousé la justice de Dieu en Christ, être lavé par le sang de Jésus, être propre et sale à la fois. Donc il est important de comprendre l'identité qu'on épouse aussi à travers l'œuvre de la croix, à travers le fait qu'on passe dans les eaux du baptême, pour pouvoir être assis dans une nouvelle identité. C'est une nouvelle naissance, une naissance en esprit. Et c'est là notre identité, c'est plus ce que je fais qui va déterminer qui je suis, mais c'est ce que Dieu dit. Dieu nous dit dans Jean 14, 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en avoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus, il est en train de nous dire que c'est lui l'axe dans lequel il faut marcher, que c'est lui la vérité, que ce n'est pas nos concepts, c'est lui qui dit ce qui est vrai au moment où il veut le révéler. Et c'est en lui qu'est la vie, donc c'est dans la marche, dans ce chemin, dans ce qu'il a préparé d'avance pour nos vies, qu'on accède à la vie. En dehors de ce chemin, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de salut, et larges sont les chemins qui mènent à la perdition. Ça mène à nous perdre, ça mène à manquer la cible, ça mène à manquer le but. Mais ce n'est pas parce qu'on manque le but d'être... C'est pas parce qu'on est sauvé par grâce qu'on ne peut pas manquer le but de Dieu pour notre vie et qu'on ne rentre pas dans les œuvres prévues d'avance. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut faire une différence entre l'identité de pécheur et le péché. On peut être sauvé par grâce et avoir compris qu'on est sauvé par grâce et ne faire aucune des œuvres prévues d'avance pour nos vies, puisque c'est par la foi qu'on va avancer dans ces œuvres-là. Et la foi vient de ce qu'on entend dans Romains 10, verset 17, et ce qu'on entend vient de la parole Réma de Christ. C'est une parole que Dieu nous adresse personnellement. Donc quand on est dans le bon axe et quand on est né d'en haut, quand on est né de l'esprit, la Bible elle nous dit qu'on est affranchi du péché. Romains 6, verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit, donc ce qui doit en découler, la sainteté, et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là, il nous est parlé du don de la vie éternelle, il nous est parlé du salut. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. La foi que c'est ni par force ni par puissance, mais seulement par l'œuvre de Dieu qui a envoyé son fils Jésus, payer le prix à la croix, qu'on peut accéder. Donc c'est une grâce. Tout don parfait vient de Dieu, c'est une faveur imméritée. Là, il est parlé du salaire du péché, de l'identité de pécheur qui nous amène à la mort. Si je suis pécheur, je suis soumis au père du péché qui est le diable. Là, il est venu nous affranchir du péché, il est venu nous affranchir de cette identité qui était sur notre vie. Mais ça ne veut plus dire que parce que je suis affranchi, je ne peux pas louper le but, je ne peux pas faire d'erreur. Et c'est ça le péché. Je vous redonne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, je veux boire de cette bouteille d'eau et si je vais boire la bouteille d'eau et que je la fais tomber, j'ai loupé le but, j'ai péché en quelque sorte. Mais si je me dis je suis un gros nul, je suis naze, je suis mauvais, j'ai besoin de me réaligner pour être bon, ben ça veut dire que je suis sorti de mon identité, vous comprenez? Et le péché, l'action, m'a donné une identité. Mais je peux être un juste qui vient de faire une erreur et qui a simplement à comprendre qu'il a fait une erreur. Et la prochaine fois, à boire la bouteille comme il faut. Je ne change pas d'identité. Parce que si j'ai besoin de devoir faire quelque chose pour me réaligner, ça veut dire que je ne suis pas assis dans la grâce et dans la justice de Dieu en Christ. Vous comprenez? En clair, je peux vivre dans un état où j'ai continuellement besoin de demander pardon à Dieu, ou je peux vivre depuis un état de déjà pardonné. Et la métanoïa, donc la repentance, c'est un réalignement. C'est simplement comprendre la chose et arrêter de faire ce qui loupe le but. Vous comprenez? Si je deviens pécheur parce que je fais une mauvaise action, je vais devoir faire quelque chose pour me réapproprier l'identité que je viens de lâcher. Mais si je reste un juste qui vient de faire une erreur, j'ai juste à changer mon action la prochaine fois, mon œuvre, pour qu'elle ne loupe pas le but. Vous comprenez? C'est hyper important de comprendre qu'on est déjà assis dans les lieux célestes, déjà assis dans la justice de Dieu en Christ, déjà assis dans la grâce. Et si je dois faire quelque chose pour me réapproprier mon identité ou un état, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis méchant pour pouvoir revenir dans ta justice. Non, Seigneur, je suis juste et je reconnais que ce que j'ai fait, j'ai loupé le but et je vais faire mieux la prochaine fois. Mais ça ne change pas. La justice, si je suis pécheur et juste, je ne peux pas être juste et pécheur à la fois, vous comprenez? Et un tout petit peu de levain, ça fait lever toute la pâte. Donc le Seigneur, il nous appelle à comprendre qu'on doit vivre une vie de déjà pardonné. Donc en hébreu, la notion de repentance, il y a plusieurs mots, il y a nasham, être désolé, se consoler, se repentir, consoler, être consolé. Il y a aussi la teshuvah. La teshuvah, c'est une repentance dans le sens d'un réalignement, un retour à la maison, un réalignement dans l'identité et dans le positionnement dans lequel nous veut le Père. Donc c'est ça la notion de repentance. Il y a quelque chose en nous qui est attristé, désolé, qui a besoin d'être consolé. Il y a une repentance, il y a un changement, et puis il y a un réalignement dans les attitudes et dans la maison du Père et dans le fait d'être établi dans cette identité que nous, on venait de rejeter. Donc la vraie repentance, c'est un alignement, un retour dans la maison du Père et dans notre héritage qui n'a jamais été perdu. Et c'est nous qui pensions qu'on sortait de notre héritage par nos comportements, alors que le Père, il nous attend toujours depuis ce positionnement-là. Et donc, imaginez, bon, on va voir après avec l'histoire du fils prodigue, je vais vous en parler. En grec, la métanoïa, c'est un changement de mentalité, un changement d'intention. Donc, si je change d'axe, eh ben, mes œuvres, elles vont changer aussi. Jean 15, 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, se repentir, plutôt que de se flageller, de devoir faire plus de guitare pour se réaligner dans la sainteté, que devoir jeûner un peu plus pour essayer de faire plier le bras de Dieu et de dire, regarde, j'ai bien fait, tu me réappropries dans mon onction. Non, c'est comprendre que il ne te disqualifie en rien ce que tu viens de faire. Il ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Donc, il ne se repent pas du fait qu'il t'a gracié, il ne se repent pas du fait qu'il t'a aimé, il ne se repent pas de l'onction qu'il t'a donnée, même si tu fais une bêtise. Et quand tu comprends que tu as fait une bêtise, ben c'est simplement un réalignement pour ne plus faire cette bêtise. Donc se repentir plus que se flageller, ça signifie regarder à Christ, accepter sa condition, sa consolation, sa grâce, que faire quelque chose par nos œuvres à nous, plutôt que de faire quelque chose par nos œuvres à nous, c'est accepter son œuvre et changer de perspective, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Et comme on change d'aiguillage au ciel, la terre va aussi s'aligner sur la prise de position qu'on a prise spirituellement. On a besoin, par exemple, un enfant qui s'est coupé le doigt. Son père, il lui avait dit, mon enfant, je te conseille de pas toucher le couteau, t'es un peu trop jeune pour toucher à ces choses-là. Et puis l'enfant, il le laisse à la maison sans surveillance un petit moment, et puis il revient. Et puis l'enfant, il a envie de faire ses expériences, et il a touché le couteau de son papa. Et il s'est coupé. Et il saigne. Eh bien, il y a deux perspectives. C'est où l'enfant, il commence à se dire, oh là là, j'ai péché, je suis pécheur. Donc, je vais devoir aller tondre le jardin pour me faire pardonner que j'ai mis du sang sur le mur ou que j'ai écrit à côté que je lui ai un peu pourri la table. Donc, je vais devoir lui peut-être lui tondre la pelouse, peut-être lui laver la maison pour que je puisse être à nouveau agréé. Ou alors, l'enfant, il peut simplement se dire, ben, j'ai fait une bêtise et courir dans les bras du père. Pour se dire, ben voilà, j'ai besoin de toi et j'ai besoin d'écouter ton conseil et je m'éloignerai plus de ta direction et de ton vent à toi. Matthieu 19, versets 16 à 26. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc là, on voit bien que la personne, elle s'approche tout de suite avec ses mérites. Qu'est-ce que je dois faire de bien pour avoir la vie éternelle? Donc le faire, on est encore en connexion à ce que je dois faire de bien ou de mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il, et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, nanani, pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, donc imaginez, hein, il s'approche avec ses mérites, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon? Jésus lui répond avec la loi pour l'amener à la compréhension qu'il ne peut pas par ses forces accéder à tous les standards. Et puis lui dit, moi je suis un super champion, j'ai fait ça, j'ai tout fait depuis ma jeunesse, je suis parfait. Et Jésus, qui sait très bien qu'on a une faille, il dit, lui il arrive, il lui dit, voilà, j'ai sauté 1,10 m au saut en hauteur. Waouh, bravo! J'ai sauté 1,20 m au saut en hauteur. Waouh, t'es un super champion. J'ai sauté 1,30 m au saut en hauteur. Et Jésus, qui sait très bien qu'à un moment, il va avoir une limite pour se dire, non, je ne peux pas accéder à la grâce, j'ai besoin de toi, il lui met la barre à 1,50 m. Et là, il lui dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. C'est celui qui se confie en ses richesses, en sa propre force, en ses propres capacités qui rentrera difficilement dans le royaume de Dieu. Et donc tout ça, c'est pour dire qu'en fait, il lui a mis la barre à 1,50 m et plutôt que de dire je ne peux pas, j'ai besoin de ta grâce, eh ben, il est parti parce qu'il s'appuie encore sur ses richesses, ses capacités et ses forces à lui. Alors que la vraie repentance, c'est d'accepter sa grâce, d'accepter que c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit qu'on est assis dans un positionnement de déjà pardonner de nos péchés passés, présents et futurs. Sinon, il faudrait toujours aller se laver constamment. Donc le mot richesse, plutos, c'est des richesses, des possessions, une abondance de possessions extérieures. Et il dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. On parle de repentance dans la Bible, c'est l'histoire du fils prodigue. Donc Luc 15, à partir du verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, donc la débauche, il vivait dans le péché, il vivait dans des choses du n'importe quoi, avec ce que lui confiait son père. Et des fois, certains chrétiens, avec ce que nous confie notre père, ont fait des choses pas justes. Et donc, il vivait dans la débauche, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il arrive au bout de ses limites, il arrive au bout de lui-même, où il reconnaît qu'il y a un besoin et que les choses extérieures ne peuvent pas combler son besoin, puisqu'il y avait une grande famine. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers la maison de mon père, je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Vous imaginez ? Là, il n'est pas question du père, là, il est question du fils, ou il est question de la fille. Il est question de nous-mêmes qui nous jugeons, de ce que devrait penser le père vis-à-vis de nous, et c'est nous qui nous jugeons indignes. C'est nous qui nous condamnons finalement tout seul, alors que en Christ, il n'y a aucune condamnation. Donc je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi donc comme l'un des mercenaires. Et il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Et donc, il voulait être traité comme un esclave, comme un serviteur, comme quelqu'un qui doit mériter pour pouvoir accéder. Et donc, la repentance qu'il a fait là, c'était encore une repentance. C'est pour ça que je parlais de la vraie repentance en Christ. Là, c'est encore une fausse repentance. C'est une repentance de serviteur, c'est une repentance d'esclave. Et des fois, Seigneur, je me repens, je ne ferai plus ces choses-là, voilà, je sais pas moi, certains chrétiens qui luttent avec telle ou telle addiction, avec l'alcool, avec la pornographie, avec telle ou telle chose. Seigneur, je ferai plus ces choses-ci, je ferai plus ces choses-là. Et je reviens en pensant que je dois faire quelque chose pour pouvoir être lavé ou me repurifier ou me re-asseoir dans l'onction avant que je me souille avec ces choses. Donc il y a des gens qui vont être plus dans la musique, plus dans ci, plus dans ça, pour essayer de se mettre plus en jeûne, plus en prière. Moi, j'ai quelqu'un que je connaissais. À chaque fois qu'il faisait une bêtise, et ça arrive, le juste tombe, Dieu le relève, il essayait de prendre des périodes de jeûne de 7 jours, 10 jours pour se réaligner dans la faveur de Dieu. C'est encore une repentance d'esclave. Et l'esclave ne prend pas part à l'héritage, l'esclave ne se tient pas dans la maison de son père. Il se leva là vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, ils commencèrent à se réjouir. Et dans cette histoire, le plus beau, c'est que le fils aîné, donc des fois c'est des chrétiens qui n'ont pas fait toutes les bêtises que certains autres chrétiens ont pu faire ou quoi, mais ils sont dans l'église, ils sont restés dans la communion et dans ces choses-là, et ils ne comprennent pas qu'il n'y ait pas la faveur de Dieu sur leur vie parce qu'ils essayent de tout bien faire, mais même eux, ils n'ont pas compris le cœur du Père et la révélation et comment prendre part à leur héritage. Et or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique, les danses, il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère. Vous les imaginez ? Il voulait une sanction. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Il s'approche exactement comme l'autre qui a dit, voilà, moi j'ai observé tous ses commandements depuis ma jeunesse et il ne connaît pas la grâce ni le cœur du père. Mais il répondit à son père, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Dis mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et donc simplement, faute de connaissance, les deux périssent puisque les deux se font voler. Lui savait même pas qu'il avait part à l'héritage, qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait, qu'il avait le droit à ce qu'il voulait. Il était encore aussi dans le faire et dans les mérites. J'ai fait toutes ces choses, je t'ai servi parfaitement. Et donc la vraie repentance, même lui s'il n'a pas dilapidé son bien, son héritage avec les prostituées, même lui s'il n'a pas vécu une vie de débauche comme son frère, eh ben il a besoin de la vraie repentance, c'est-à-dire de la vraie compréhension de son héritage et de l'établissement comme un fils. Et des fois on peut faire, dans le milieu chrétien, des fausses repentances qui sont encore des repentances de serviteurs, d'esclaves, où on a besoin, à chaque fois qu'on fait une erreur, de devoir encore se réaligner. Alors qu'on peut vivre dans un état de fils. Son identité, est-ce qu'elle avait changé parce qu'il a dilapidé son bien dans toute... Pour le père, c'était toujours son fils. Vous imaginez ? Donc, si c'était toujours son fils, il portait toujours l'héritage et le nom de son père, vous êtes d'accord ? Et donc, le père, c'est le juste juge. Et donc, je porte toujours la justice de Dieu en Christ. Et ce n'est pas ce que je fais qui détermine qui je suis ou où je vais. Mais effectivement, quand je me repens, je comprends que la vie dans laquelle je vais ne va pas m'amener... justement, il va y avoir une famille, il va y avoir une sèche. Il va y avoir quelque chose qui va me manquer, la vie va me manquer quand je loupe le but et je me réaligne dans la vie, je me réaligne dans la maison du Père. C'est ça la vraie repentance. Et je peux mener une vie où j'ai besoin sans cesse de devoir me réaligner dans mon héritage, ou une vie où je suis assis dans mon héritage et je cherche à progresser, à m'améliorer sur la terre comme dans l'état dans lequel je suis déjà au ciel. Est-ce que vous comprenez la différence que ça fait ? Parce que c'est ça qui change tout. C'est ça qui fait qu'on devient héritier de la promesse, c'est ça qui fait qu'on ne devient pas pécheur quand on fait une erreur et qu'on est assis et qu'on est transformé à l'image de l'héritage que l'on contemple. Mais si je suis juste et pécheur, je suis pas juste, un tout petit peu de levain fait lever toute la pâte, vous comprenez ? Donc le Seigneur, il nous veut dans l'établissement, dans l'identité de fils, de déjà pardonné. Et quand tu commences à vivre une vie de déjà pardonné, tu cesses de t'accuser sur tout un tas de choses et de changer d'héritage, de dire je suis nul, je suis mauvais, je suis pas à la hauteur, je suis indigne de la maison de mon père, je suis indigne de l'appel qui est sur ma vie, je suis indigne de ces choses-là. Et du coup, quand tu commences à te donner une autre identité que le fait qu'il t'a trouvé digne en lui, tu commences à mettre du bois sur le feu de l'ennemi, et là, l'accusateur des frères, t'es en train d'amener du bois sur le feu de son accusation, et là, il se régale, tu tombes sur le terrain de jeu de l'ennemi. Et puis, il va toujours de plus en plus te casser, de plus en plus t'éloigner, parce que tu ne seras de moins en moins capable, tu es de plus en plus accusable, et puis tu vas t'éloigner. C'est ce que fait l'identité de pécheur, elle te sépare de la révélation de ton héritage. Et il savait très bien qu'on ne pouvait pas le faire par nous-mêmes, et c'est pour ça que c'est lui qui a payé le prix. Donc, est-ce que tu veux devoir faire pour pouvoir être pardonné, ou est-ce que tu veux vivre une vie de déjà pardonné ? Telle est la question. Ça ne veut plus dire que tu dois faire toutes les bêtises que tu veux. La Bible, elle dit « je fais des choses consciemment, le péché conscient, le péché volontaire », la Bible, elle dit, « j'annule la grâce de Dieu parce que je suis en train de me livrer, de me prostituer clairement et consciemment à quelque chose qui a été vaincu. » Mais quand je fais le mal que je ne veux pas faire, comme le dit Paul, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Donc il pêche, on est bien d'accord, mais il reste toujours un juste assis dans la grâce de Dieu, déjà pardonné, déjà lavé, par le meilleur des produits détachants, l'eau changée en vin, le sang de Jésus. Voilà, tétélestai, tout est accompli, mais ça veut dire la dette est entièrement payée. Tu n'as pas à payer, tu n'as pas à te sacrifier, tu n'as pas à redevenir comme un esclave et un serviteur pour payer ta dette, tu ne peux pas, elle est payée. Tu as juste à accepter que lui, il l'a payée, que lui va t'éduquer, que lui, il va t'amener à rentrer dans ses promesses. Tu n'avais pas compris ces choses-là. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu peux réellement te repentir et t'asseoir dans la grâce de Dieu, t'asseoir dans les promesses de Dieu, t'asseoir dans l'identité et l'héritage, et du coup, tu vas commencer à voir toutes les promesses de Dieu couler sur ta vie, puisque tu ne vacilles plus, tu ne passes plus d'un positionnement d'en haut à en bas en permanence, tu es enraciné en haut, et du coup, l'arbre, il peut commencer à croître, et tu vas en voir les fruits qui vont venir sur la terre comme au ciel. C'est pas une merveilleuse nouvelle, ça ? Donc, est-ce que tu peux sauter 1m50 ? Et si tu peux le sauter, est-ce que tu peux sauter 1m80 ? Non, Seigneur, je ne peux pas, mais je puis tout par toi, par celui qui m'a déjà fortifié. Ok, bon, en tout cas, voilà les amis, j'espère que vraiment c'est un enseignement, un fondement important pour pouvoir vivre dans la grâce de Dieu depuis la grâce et non pas depuis quelqu'un qui a encore besoin d'être gracié. Vous êtes déjà gracié, vous êtes déjà pardonné, vous êtes déjà tant aimé, vous êtes déjà tant voulu, vous êtes déjà tant désiré. Ok, en tout cas, voilà, bénédiction à tous, à toutes, et passez une bonne soirée dans la joie du Seigneur, que le Seigneur vous persécute encore par sa grâce et son amour.